Au cœur de la foi, la Trinité, première partie. Dans les deux premiers articles de la série Au cœur de la foi, nous avons vu que le Nouveau Testament révélait la déité de Jésus, le fait que Jésus est Dieu. À la lecture des versets cités dans ces articles, il est clair qu'en plus de Jésus, Dieu le Fils, il y a aussi le Père qui est Dieu, comme on le voit quand Jésus prie le Père, quand il fait la volonté du Père, etc. La Bible parle aussi du Saint-Esprit, qui est également Dieu. Un Dieu, trois personnes. C'est ainsi que les non-initiés pourraient penser que le christianisme croit en trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'en est rien. Les chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La doctrine qui explique comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu s'appelle la doctrine de la Trinité. Cette doctrine explique que Dieu a toujours existé en tant que trois personnes en un seul être. C'est très différent de nous, les humains, puisque nous existons en tant que personne unique dans un être unique. Nous sommes unipersonnels. Dieu existe en tant qu'un être tripersonnel, trois personnes, chacune distincte des deux autres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, il est un être unique. Bien que Dieu soit tripersonnel, chacune des trois personnes est entièrement Dieu, possédant tous les attributs de l'essence complète de Dieu. Pour en savoir davantage sur les attributs de Dieu, voir l'article « La nature et le caractère de Dieu » dans la série « Au cœur de la foi ». Le célèbre théologien Louis Berkhof estime que le mot « personne » ne permet pas de bien rendre compte du concept de la Trinité, parce qu'il désigne de nos jours un individu rationnel et moral, distinct. Le philosophe chrétien Kenneth Samples est du même avis. Les trois personnes de la Trinité ne doivent pas être comprises comme trois parties ou fractions de Dieu. Chaque personne est pleinement divine et possède de manière égale la totalité de l'essence divine. Le terme « personne » employé dans la définition de la Trinité revêt un sens particulier et ne doit pas être compris comme une référence à une entité ou un être distinct, car cela reviendrait à diviser l'essence divine. Notre expérience d'êtres humains nous fait dire que là où il y a une personne, il y a aussi un être individuel distinct. Chaque personne que nous connaissons est une entité singulière et séparée, en qui la nature humaine est individualisée. Mais en Dieu, il n'y a pas trois individus existant l'un à côté de l'autre et séparés les uns des autres. Au contraire, il y a un être divin, une essence avec trois identités personnelles. Une autre façon d'exprimer cela est de dire que, dans l'être de Dieu, les trois personnes distinctes ont une relation interpersonnelle. Elles communiquent et ont des échanges les unes avec les autres. Dans les Écritures, on voit le Père s'adresser au Fils à la deuxième personne du singulier. « Tu. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. » On voit aussi le Fils dire « Il » en parlant du Père, montrant qu'il existe une communication entre eux. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. On a l'exemple du Fils qui s'appelle lui-même « Je », se différenciant ainsi à la fois du Père et du Saint-Esprit. Quand le Défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Ainsi, en Dieu qui est très personnel, il existe une interaction et une relation personnelle entre les différentes personnes au sein de l'être de Dieu. J'aime tout particulièrement la manière dont l'auteur et philosophe William Lane Craig décrit la Trinité dans un de ses cours. Tout comme moi, en tant qu'être, je suis le support d'une conscience individuelle, que j'appelle « je » ou « moi ». De même, Dieu est-il un être doté de trois consciences individuelles? Dieu est un être avec trois consciences, trois « je » ou trois « moi ». Ainsi, l'être de Dieu est-il constitué de trois personnes? Le concept de trois personnes en un seul Dieu n'était pas exprimé de façon explicite dans l'Ancien Testament, bien qu'il s'y trouve des versets permettant de déduire qu'il y a plus d'une personne en Dieu. La compréhension des trois personnes en un seul Dieu est devenue plus claire dans le Nouveau Testament en raison de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus et grâce à l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants. Les disciples de Jésus en sont venus à comprendre qu'il était Dieu, mais distinct du Père, et que le Saint-Esprit était également Dieu, bien que distinct du Père et du Fils. C'est donc à l'âge du Nouveau Testament que la vérité de la Trinité a été révélée et s'est développée. La compréhension et la formulation de cette doctrine s'est faite progressivement. Dans les premiers temps de l'histoire de l'Église, comme nous l'expliquerons plus en détail dans le prochain article sur ce sujet, bien que le mot Trinité ne figure pas dans le texte biblique, les Écritures en révèlent la doctrine et le mot Trinité en exprime le concept. Le concept de la Trinité dans l'Ancien Testament. Bien que l'Ancien Testament ne présente pas Dieu comme un être trinitaire, certains passages de l'Ancien Testament donnent à penser que Dieu est plus qu'une seule personne. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'Éternel Dieu dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Dans les versets suivants, également tirés de l'Ancien Testament, celui qui parle est soit Dieu le Père, soit Dieu le Fils, et ils se réfèrent l'un à l'autre, ou au Saint-Esprit, en suggérant à nouveau l'existence de plusieurs personnes au sein de la divinité. Qui est jamais monté au ciel, puis on est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignées? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Dis-le si tu le sais. Ô Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son Esprit est avec moi. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Un des grands versets de la Torah, des cinq livres de Moïse, correspondant aux cinq premiers livres de l'Ancien Testament chrétien, qui est fondamental au judaïsme, déclare « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » Le judaïsme est une religion monothéiste qui croit en un Dieu unique. Cette croyance était tout à fait particulière à Israël dans la période de l'Ancien Testament, puisque toutes les cultures de cette région étaient polythéistes, y compris dans tous les pays voisins d'Israël, dès le début et jusqu'à la venue du Christ. Le christianisme est également monothéiste. Les chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et affirment le même verset de la Bible. Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Cependant, contrairement au judaïsme, les chrétiens croient en un Dieu tripersonnel, trois personnes en un seul être. Saint Augustin et la logique de la Trinité. Saint Augustin, 354 à 430 après Jésus-Christ, l'une des plus grandes figures du christianisme de l'Empire romain d'Occident, et considéré comme l'auteur chrétien le plus important après l'apôtre Paul, résume la logique fondamentale de la Trinité dans les sept affirmations concises suivantes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, il n'y a qu'un seul Dieu. Les trois premières affirmations expriment que chaque membre de la Trinité est Dieu. Les trois affirmations suivantes déclarent que chaque membre de la Trinité est distinct des deux autres. Et la dernière affirmation déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que tout ça puisse être difficile à comprendre pleinement en s'appuyant sur les sept affirmations fondamentales de saint Augustin, il est clair que la Bible établit le principe de la Trinité, celui de trois personnes distinctes en un seul Dieu. Le Père est Dieu. Les versets suivants expriment que le Père est Dieu. « Toi, tu es mon Père, oui, c'est toi qui es mon Dieu, le roc qui me sauve. Mais toi, ô Éternel, toi, tu es notre Père, et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Le chapitre 17 de l'Évangile de Jean est une prière que Jésus adresse au Père, montrant que pour lui, le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Les versets suivants expriment le fait que Jésus est Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Ce Fils, Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Car en lui, le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Saint-Esprit est Dieu. Les versets suivants expriment le fait que le Saint-Esprit est Dieu. Dans le livre des Actes, Pierre dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Le psaume 139 affirme l'omniprésence du Saint-Esprit, ce qui est exclusivement un attribut de Dieu. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube, pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. 1 Corinthiens chapitre 2 montre que le Saint-Esprit est omniscient, qu'il sait tout, ce qui est un attribut de Dieu seul. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce verset explique que, de même qu'un être humain est le seul à savoir ce qui se passe dans sa tête et dans son esprit, que ses pensées intimes ne sont connues que de lui, de la même manière, les pensées intimes de Dieu ne sont connues que de Dieu lui-même. Ce qui montre que l'Esprit de Dieu est Dieu, puisque l'Esprit de Dieu comprend les pensées de Dieu. Le verset suivant montre que le Saint-Esprit était présent avant la création du monde et qu'il jouait un rôle particulier. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Les versets suivants montrent le Saint-Esprit à l'œuvre en même temps que Jésus dans nos vies de chrétiens. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus dit à ses disciples, « Mais le Défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » trois personnes distinctes. Dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Corinthiens, Paul évoque les trois personnes de la Trinité d'une manière qui montre qu'elles sont distinctes les unes des autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Juste avant son ascension au ciel, Jésus commande à ses disciples de baptiser au nom de chacune des trois personnes de la Trinité, montrant ainsi qu'il les considérait toutes comme égales, comme étant toutes Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La façon dont les auteurs du Nouveau Testament se réfèrent au Père, au Fils et au Saint-Esprit montre qu'ils sont distincts, qu'ils sont différents les uns des autres et que leurs échanges prouvent qu'ils ne sont pas la même personne. Par exemple, Jésus demande au Père d'envoyer l'Esprit, ce qui indique que trois personnes différentes ont des échanges entre eux. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Ces versets nous montrent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts les uns des autres. Un seul Dieu. La dernière affirmation de saint Augustin est « Il y a un seul Dieu ». L'Ancien et le Nouveau Testament et Jésus lui-même affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. » Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n'est pas de Dieu juste, Dieu qui sauve. Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Au sujet de la question « Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ?», nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Les affirmations de saint Augustin qui sont fondées sur les Écritures montrent bien que Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'elles sont distinctes les unes des autres et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si ces affirmations permettent d'expliquer la logique fondamentale de la Trinité, pour autant elles ne la rendent pas compréhensible. En fait, pour nous qui sommes des êtres humains, il est impossible d'appréhender véritablement le concept Père, Fils et Saint-Esprit en un seul Dieu. Nous n'avons rien de comparable dans notre univers. C'est tout à fait étranger à notre expérience. C'est pour le moins troublant, tout en étant compatible avec notre croyance en l'existence d'un Dieu créateur, tout-puissant et omniscient. Dès lors qu'il se révèle à nous, il est normal que certains de ses aspects échappent à notre expérience et dépassent notre compréhension humaine. Donc, si vous avez l'impression que vous ne comprenez pas pleinement ce concept, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un seul Dieu unique, qu'il y a trois personnes en Dieu, que Dieu vous aime, que Jésus est mort pour votre salut et que le Saint-Esprit est avec vous pour vous aider et vous guider. À propos de la Trinité, le théologien A.W. Tozer expliquait « La doctrine de la Trinité est une vérité pour le cœur. Le fait qu'on ne puisse pas l'expliquer de façon satisfaisante joue en sa faveur au lieu de jouer contre elle. Une telle vérité devait être révélée. Personne n'aurait pu l'imaginer. Les apôtres et les disciples qui étaient tous juifs et qui jusque-là avaient cru qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et pour lesquels croire autre chose était blasphématoire ont vite compris, surtout après sa résurrection, que ce Jésus qu'ils avaient connu et avec qui ils avaient vécu était Dieu. Ils savaient qu'il n'était pas Dieu le Père, mais que pourtant il était Dieu. Une fois que Jésus est monté au ciel et que l'Esprit Saint, qui leur avait promis, est entré avec puissance dans leur vie à la Pentecôte, ces mêmes hommes ont compris que l'Esprit Saint était Dieu, tout en sachant qu'il n'était ni le Père ni le Fils. Il est clair que les auteurs du Nouveau Testament ont compris et accepté la réalité d'un seul Dieu et des trois personnes distinctes de la Déité. C'est ce que croyaient les Juifs primitifs et c'est ce que croient les chrétiens aujourd'hui encore. C'est au cœur de notre foi. La prochaine partie de cette série abordera d'autres aspects de la Trinité.